Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Et salut à vous, chers auditeurs du Manche Disque. Salut, salut, c'est encore Nico et Julien pour cette émission bimensuelle qui est le Manche Disque, l'émission consacrée au disque vinyle, à la culture vinyle et surtout aux découvertes musicales. Et on a fait un point sur la playlist avec Julien là à l'instant.
On va voyager, hein, comme d'habitude.
On va voyager. On va voyager à travers les époques, à travers les pays, à travers les styles musicaux, comme d'habitude au Manche Disque, pour cette émission, une nouvelle fois qui se lance assez riche. Et qu'on espère la plus distrayante pour vous, qui va vous égayer un petit peu cette période, un petit peu de transition entre les différentes mesures, élargissement de la liberté, etc. Peut-être retour dans un futur déjà annoncé des spectacles et de la culture dans ces lieux. On l'espère en tout cas.
Exactement.
On aura en tout cas essayé du mieux qu'on a pu de vous faire traverser cette page un petit peu tristounette et surtout vide.
Avec du bon son.
Avec du bon son. Et donc voilà, on va continuer sur notre lancée.
Thank you.
Très heureux de démarrer cette émission avec un titre de Prince, issu de son album, 11e album de 1989, consacré à la bande originale du film Batman de Tim Burton, donc le tout premier Batman du cinéma. Il y en a eu beaucoup, beaucoup depuis, dans des genres bien différents. Mais voilà, c'était le premier mythique film avec Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, entre autres. Et puis donc, c'était le morceau Scandalous, qui figure sur la face B de cet album et qui a comme particularité d'avoir été composé à la fois par Prince, mais aussi par son père, John L. Nelson. Voilà, donc on est en 1989.
Très bien. Prince, donc notre grand leader en termes d'artiste qui revient sur les ondes du manche disque.
Et qui score une nouvelle fois.
Bon, oui, voilà, il a pas mal d'avance et ça vous permet de découvrir, je pense, une petite partie de sa très riche discographie. Parce que voilà, c'est un petit morceau de temps en temps et on voit que c'est très 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 riche, très varié.
Oui, ça s'étend sur 40 albums, oui. des années, de, même des décennies de carrière. Donc c'est sûr qu'on a, ça fait un spectre artistique assez large et donc on a toujours plaisir à vous faire découvrir par petits bouts. On espère peut-être l'œuvre complète un jour, mais il nous faut peut-être dans quelques années si nous sommes toujours de ce monde et à la radio. Voilà.
Et ben je vous propose moi de rester sur ces continents-là, mais de descendre un peu plus au sud, puisque je vais vous parler maintenant de chicha, la chicha music. La chicha music, en fait, c'est comment dire un courant musical qui est apparu au Pérou et qui a intégré des éléments de la musique Huayno, qui était la musique des tribus locales, mélangée avec des percussions et des influences caribéennes, mais également des guitares un peu psychédéliques, des guitares un peu wah-wah. Et pour symboliser un peu ce que c'est que cette chicha musique, je vais vous penser à un morceau d'un bonhomme qui s'appelle Chacalón. Alors Chacalón, c'est un mythe au Pérou, hein, c'est vraiment une institution, c'est un homme, Lorenzo Palacio Quispe de son état, qui a été un peu le porte-parole de la classe laborieuse péruvienne. On disait de lui que c'est l'homme qui faisait bouger les montagnes, parce que quand il faisait un concert à Lima, les gens des bidonvilles, des collines alentours, venaient par dizaines de milliers, et donc on avait l'impression que la montagne venait à sa rencontre, en fait, quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il tourne avec un groupe qui s'appelle la Nueva Crema, qui est, comme son nom l'indique, la nouvelle crème. C'est une sorte de référence à Cream, le groupe anglais que nous connaissons bien, ouais, puisque les morceaux sont parcourus de guitares fuzz et d'effets légèrement psychédéliques. Et donc je vous propose un morceau qui est excellent, qui est très très bon et qui est date des années, la fin des années 70, sur son album Chacalón, la Nueva Crema, qui est paru sur un label péruvien qui s'appelle Horoscopo et qui a été réédité récemment par ce même label qui est toujours en activité depuis les années 70. Et donc je vous propose d'écouter Será Mejor.
Adloatal quoi, il m'a sapé, toi. Got quite a bit of galloping.
Dans le manche disque sur Radio G, on écoutait un monument de la musique éthiopienne. On parlait d'un monument juste avant de la musique péruvienne. Eh bien, un monument de la musique éthiopienne, Ayalou Mesfin, beaucoup moins connu que Mulatu Atsatke, mais non moins important dans l'histoire de ce pays. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Ayalou Mesfin, qui est un enfant, d'abord un enfant passionné de musique en Éthiopie, qui, pour des raisons familiales, une famille qui n'est pas forcément d'accord avec son orientation musicale, bien va devoir quitter le domicile familial assez tôt, vers l'âge de 11 ans, s'installer à Addis Abeba, capitale donc de l'Éthiopie, et survit en faisant des petits boulots, et puis pratique en tout cas la musique, découvre la musique dans la capitale, et puis à un moment donné, eh bien, il se résout à délaisser la musique pour devenir garde nationale, enfin de la garde nationale éthiopienne, chargée de la garde notamment de Sa Majesté Haïlé Sélassié, qu'on connaît bien quand on s'intéresse au reggae, puisque c'est un petit peu le saint des Jamaïcains, Rastafari. Voilà, donc il finit
pour
comme...
autant oui. A quand même complètement fait disparaître la swinging Addis Abeba juste avant sa prise de pouvoir, à un moment où l'Éthiopie avait une production discographique pléthorique.
Oui, alors c'est pas vraiment ce qui est arrivé à Alayou Mesfin, hein, puisque lui, en fait, son déclin, il est surtout arrivé à la chute d'Haïlé Sélassié, qui a été remplacé par donc un régime dictatorial beaucoup plus sévère, et qui justement l'a poussé, lui, à intensifier son militantisme et sa critique, en fait, du gouvernement, mais par des voies un peu détournées, à savoir, il a diffusé beaucoup de cassettes de propagande anti-gouvernementale. Il déguisait en fait ses critiques gouvernementales dans des chansons d'amour, donc il fallait comprendre, il y avait un deuxième sens, et il a été, suite à ce militantisme et à cette diffusion de cassettes qui étaient beaucoup plus explicites que ces chansons d'amour déguisées, mais il a été trahi par son meilleur ami, et donc emprisonné et torturé par le régime dictatorial. Alors quand le régime lui-même a été remplacé par un autre régime plus démocratique, entre guillemets, il n'a pas eu autant de liberté artistique qu'il ne l'aurait espéré. Il s'est vite rendu compte que c'était démocratiquement très discutable. Ouais. Et il a même échappé à un attentat, en tout cas que lui a vécu comme un attentat sur scène, quand il a reçu une décharge de 3000 volts à travers son micro, qui lui aurait échappé des mains 2 minutes avant, donc c'est ce qui lui aurait sauvé la vie. Enfin voilà, il raconte ça. Donc à la suite de quoi, il quitte définitivement l'Éthiopie en 98 parce que pour lui c'est un petit peu la goutte d'eau de la persécution. Et il a été remis au goût du jour 20 ans plus tard. Donc en 2018, par ce fabuleux label que l'on a déjà vanté dans cette émission, oui, qui s'appelle No Again Records, le label chapeauté par notre ami Eoten Alapat, surnommé Egon. Et donc voilà, ça a été diffusé par l'excellent aussi groupe club de vinyle qu'on a aussi vanté dans cette émission, oui, donc Vinyl Me Please.
Tout à fait.
Ça fait partie de la collection Essentials, donc Essentiel, de Vinyl Me Please en 2018. Et donc voilà, je souhaitais vous faire découvrir cet artiste quand même hors du commun, aussi bien dans sa pratique du funk que sa façon si particulière de chanter, hein, caractéristique.
Est-ce qu'il est toujours en activité ou...
Alors il est toujours vivant, ouais. Aux dernières nouvelles.
Il ne doit pas être tout jeune pour le coup.
J'aurais dû faire une petite recherche. Alors là, il a plus de 80 ans, je pense. Ouais. J'aurais dû faire une petite recherche Wikipédia pour être sûr qu'il ne soit pas mort récemment. Bon,
on vous en reparlera, voilà, quand on en repassera.
Mais en tout cas, il était d'activité il n'y a pas si longtemps, d'accord, que ça, puisqu'il s'est encore produit sur scène dans le cadre justement de cette réédition. Donc en 2018, ça l'a remis sur le devant de la scène. Et donc, on lui a ouvert certaines scènes pour se reproduire, pour faire un petit peu de choses comme à l'époque, rejouer un peu sa musique avec qu'il jouait avec un groupe qu'il faut nommer quand même parce que c'est lui qui l'a fondé et c'est quand même un des noms aussi importants de l'Ethio Jazz, Ethio Funk, qui sont les Black Lion. Voilà.
Okay.
Et c'était donc la réédition, pardon, j'ai pas précisé, c'est peut-être important de le dire, la réédition par No Again Records n'est pas un album, mais une compilation de ses meilleurs titres, parce qu'il a fait beaucoup d'albums qui ont été diffusés ici et là, et donc ça a regroupé ses meilleurs titres de tous ses albums, et il a vécu de son propre aveu à Yalou Mesfin cette réédition, cette compilation, comme le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre.
D'accord. Voilà. On en parlait un petit peu hors ligne, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà figuré dans une des très belles compiles, alors en CD pour le coup, qui est la collection Éthiopique, qui a fait le beau jour des années 90-2000, qui commence à être un peu coté maintenant, par lequel on a pu avoir des chansons érythréennes, des musiques éthiopiennes, Moulatou Astatke, Mahmoud Ahmed, Tlaloun Gesese et tout ça. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux CD ou même plus qui lui sont peut-être consacrés.
Bah, c'est probable, en tout cas, si ça ne l'était pas, ce serait un manquement,
oui,
parce qu'il est vraiment, il a vraiment, vraiment, vraiment compté pour la culture et la musique de son pays. Donc ça m'étonnerait qu'effectivement, qu'il ne figure pas parmi ces grands noms de la musique éthiopienne. Voilà.
Eh bien, on va enchaîner. Alors, on retourne cette fois un peu plus vers l'Occident. Je vous en parlerai après, mais je vous propose quand même d'écouter I Pity the Fool des Manish Boys. Well, I pity the fool. I said I pity the fool. You know I. I said I pity the fool. She'll break your heart one day, then she'll laugh as she walks away. Yeah, I pity the fool. I said I pity the fool. Ooh, I pity the fool. Well, I said I pity the fool. She'll make a heart one day, then she'll laugh as you walk away. Well, I pity the fool. Just standing there watching you make a fool out of me. sur Radio G 101.5. On vient d'entendre les Manish Boys avec le morceau I Pity the Fool de mai 1965. Alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou pas, mais The Manish Boys, c'est un des premiers groupes du jeune David Bowie.
Moi j'ai triché, j'avais vu la...
Oui.
La pochette.
Voilà. Donc David Bowie, en fait, qui a commencé avec les King Bees, puis après avec les Manish Boys, et puis après il a tourné légèrement, sous le nom de David Jones, avant d'enchaîner avec The Lower Third, notamment. Et là, donc, on l'a à sa période de Manish Boys, donc un peu rhythm and blues, sur une très belle compilation, alors qui n'existe à ma connaissance qu'en CD, qui n'est pas si évidente que ça à trouver, qui s'appelle David Bowie Early On, et qui intègre donc ses morceaux de 1964 à 1966, et qui se termine par les morceaux I'm Not Losing Sleep, I Dig Everything, qui sont des morceaux qu'on va retrouver après sur son tout premier album, celui où il est en duo avec The Laughing Gnome, etc. Et c'est vrai que on se rend compte que l'histoire a montré que David Bowie n'était pas trop l'homme à être dans un groupe. Il y est retourné brièvement à l'époque de Teen Machine et c'était un peu gêné un peu aux entournures. Donc voilà, il a écumé les groupes à la recherche du succès dans les années 60. Et pour autant, moi je trouve que sur ces 17 titres, enfin ces 15 titres, puisqu'après les deux derniers sont un peu plus dans sa période de tout premier David Bowie, je trouve qu'elles sont presque plus, c'est des morceaux qui sont plus intéressants que ceux de son premier album où il était, on va dire, un petit chanteur de variétoche qui se cherchait encore.
Ah, c'est très
là,
bluesy,
on est dans le plus, voilà, on est dans le rhythm and blues à fond. C'était très sympa. Donc voilà, c'est une compilation chez Rhino qui date de 1991, qui n'a pas été rééditée. Effectivement, là, dans cette période où on va piocher un petit peu dans tous les trucs de David Bowie, on ressort des facsimilés, des premières versions de Space Oddity et tout. Ce serait pas mal qu'ils nous ressortent les petits 45 tours, parce que ça a jamais trop fait l'objet d'album, hein, je pense, hein, de ces différents morceaux avec The Lower Third, The Manish Boys, The King Bees, etc. etc.
Voilà, ça pourrait faire une belle compile, comme c'est le cas de ce disque-là. Un petit peu comme c'était le cas d'Ayalou Mesfin.
Exactement.
Notamment. Ouais, c'est très, 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 très intéressant. Et donc, on re-rentre un petit peu dans le rock. Après cette page world music, là, David Bowie nous ramène dans le rhythm and blues, le blues. On vient du côté du rock et je vais vous passer maintenant un morceau d'un artiste qui s'appelle Dashiell Hedayat, de son vrai nom Daniel Théron, qui est un romancier et un musicien, donc au style assez inclassable et très controversé, parfois même de mon point de vue assez justement controversé. Il n'a pas toujours fait que des choses
il allait
un petit peu loin des fois et même un petit peu limite monsieur Théron, mais c'était un artiste aussi total, c'est-à-dire que c'est une personnalité aussi très 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 tourmentée. Et comme bien souvent, le tourment dans l'art, ça fait des choses extrêmes. Et on peut quand même lui attribuer cette caractéristique à Daniel Théron, qui a officié sous beaucoup de pseudos. Alors, bien entendu, dans la littérature, on le connaît surtout sous le pseudo de Jacques-Alain Léger. Mais aussi dans le niveau musical, c'est plus Melmoth et donc Dashiell Hedayat. Melmoth, c'est le pseudo qu'il a utilisé pour son premier album. Avant ça, il était critique musical, dont certaines critiques ont été publiées dans le magazine Rock and Folk. Et son premier album, donc Devanture des Ivresses, il le publie en 1969, donc sous le pseudo de Melmoth. Voilà. Et à cette période-là, il fait des expériences psychédéliques sous LSD et champignons. 69, tu me diras, c'est une époque qui s'y prête.
C'est ça.
Voilà. Et donc, ces expériences donneront donc cet album, Devanture des Ivresses, mais aussi l'écriture de son deuxième album, Obsolète, sous le pseudo de Dashiell Hedayat, un pseudo qui sera la contraction de deux auteurs littéraires qui l'affectionnent particulièrement.
Dashiell
Hamet, voilà. Et Sadegh Hedayat.
Ah, je connais pas.
Donc Obsolète, il l'écrit en 69, mais il n'est enregistré qu'en 1971, donc deux ans plus tard, au château d'Hérouville, avec le groupe Gong, qu'on connaît bien.
Camembert électrique.
Exactement, et bien figure-toi qu'il se trouvait au château d'Hérouville au même moment pour l'enregistrement de Camembert électrique. Donc ils en ont profité pour faire la musique de ce Obsolète Dashiell Hedayat. Ça donne un album unique, vraiment, très 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 barré, très psyché aussi. La face A, elle porte... un sous-titre en fait très évocateur de ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'elle s'appelle Hey Mushroom, Will You Mush My Room? Voilà. Ça, ce sont les jeux de mots que peut-être on peut rapporter assez spécifiques des tripes LSD quand même.
Ouais, c'est possible.
Le disque, il comporte d'ailleurs une indication d'écoute en anglais que je vais vous lire. Je retrouve la pochette.
Est-ce que c'est maximum volume à la David Bowie ou à d'autres
On est un petit peu là-dedans. Ouais. Warning de point. This record must be played as loud as possible, must be heard as stoned as possible, and thank you everybody.
Voilà. Oui, on retrouve ça avec Der Blutard qui suggérait d'écouter ses albums chemically balanced.
Donc on est là-dedans.
Déséquilibré chimiquement.
Pour les moins anglophones de nos auditeurs, je traduis un petit peu quand même. Donc cet album doit être écouté le plus fort possible et doit être entendu le plus défoncé as impossible.
Carrément. Voilà. Ouais, aussi défoncé qu'impossible.
As impossible, voilà. Et merci tout le monde.
Mais ne faites pas ça chez vous.
Non, ne faites pas ça chez vous, bien sûr, ou avec modération. Non, quoi que pour ça, non. Il n'y a même pas de modération, apparemment, je crois, dans les textes. Hein. Daniel Théron, quand même, pour la petite fin. Biographique, pardon, il finit malheureusement par se donner la mort récemment en 2013, en se défenestrant à Paris. C'était quelqu'un qui, de la vie générale de ses amis et de ses moins amis, était quelqu'un de très très perturbé et d'assez ingérable et très 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 instable psychiatriquement. Notamment, ce suicide, il met fin à une période dépressive et une panne d'écriture absolument désastreuse et un délabrement de sa personne apparemment très spectaculaire. Il écrit une lettre à son tuteur, d'ailleurs il était sous tutelle, c'était à ce point-là, qui contient la phrase assez évocatrice: ma mère n'a jamais réussi à se suicider, moi si. Voilà. Ouais, ça en dit aussi un petit peu du personnage, et c'est assez trash. Mais pour finir sur une note un peu plus gay, on va dire.
Oui, c'est pas dur, cela dit.
Voilà. On va se replonger dans cette œuvre absolument essentielle, qui est cet album Obsolète, avec un morceau assez long qui s'appelle Chrysler, qui est le premier morceau de cette face A sous-titrée Hey Mushroom, Will You Mush My Room. Ça s'appelle Chrysler, et vous allez entendre donc l'écriture donc de Dachel et Dayat, une écriture assez, on va dire, minimaliste sur ce titre-là, et puis surtout la musique spécifique, le son gong dans son excellent. On s'écoute ça tout de suite.
Chrysler rose. Elle repose sur ses jantes, abandonnées. Ses roues s'envolaient. Elle s'accapote et déchire. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Le Chrysler rose. Le Chrysler que j'ai au fond de la cour. C'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. D'un doigt ma ville dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que Dachille est un con. Oui, Chrysler. Chrysler rose. Chrysler. Oui, ma Chrysler. Elle est ta Chrysler. Et... oui, mais on est tous. Ta Chrysler. 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 Oh. Elle ne va plus rouler, mais c'est là que je fais la fête. On est mieux qu'au 7ème. Le 7ème ciel à travers un capot déchiré. Le 7ème ciel et ses nuages pas bleus. Et au moment de monter, sa vie me dit ta Chrysler. Oui, ta Chrysler. Ta Chrysler, seulement des fous. Oui, mais tu sais. Chrysler. 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 C'est de me dire ta Chrysler. Oui, ma Chrysler. En montant, c'est de me dire
disque.
I'm not afraid.
Et c'était le morceau Ice Bar du groupe Grauzone. Grauzone, le groupe où ont sévi notamment les frères Escher, Martin et Stéphane. On a écouté le morceau connu de ce groupe qui s'appelle Ice Bar, donc Ours Polaire, qui date donc des tout début des années 80 avec ce groupe Grauzone qui se voulait artistique, contestataire et dans l'esprit punk, et qui a bénéficié très récemment d'une superbe réédition de We Release Whatever We Want. Oui, un truc du genre, Records, un excellent label au nom assez provocateur. Dans une boîte de toute beauté supervisée par Stéphane Escher lui-même, qui reprend donc leur album LP, l'intégralité des morceaux qui étaient sortis à côté, un bootleg qui est devenu officiel, et un poster et un bouquin avec dedans des interventions de différents artistes, des dessins, etc. Et c'est un bouquin qui est fait sous une forme de facsimilé de fanzine, photocopié et tout ça à l'ancienne, parce que c'était les désidérata de Stéphane Escher de faire vraiment cette boîte dans l'esprit qu'ils avaient à l'époque.
Sacré Stéphane, une nouvelle fois, on est, tu l'avais déjà passé donc un titre là-dessus.
Exactement.
Une nouvelle fois, hop là.
Je l'avais passé quand il jouait les morceaux des Spiltz Boys, des Noise Boys, pardon. Il jouait donc des morceaux en solo de son précédent groupe, parce que c'est la scène suisse des années 80, enfin du tout début des années 80, était très vive. Notamment, je pense, influencée par sa voisine, la scène allemande, en termes d'électro, de trucs, de précurseur un peu du genre. Et donc voilà, on l'avait déjà passé il y a quelques mois, peut-être même plus d'un an de ça, et le voilà maintenant avec ce morceau emblématique que moi j'avais découvert il y a une bonne vingtaine d'années, qui m'avait vraiment frappé et que je suis très content de retrouver dans une boîte donc d'excellente qualité, de We Release Whatever We Fuck We Want Records.
Yes, ouais. Et effectivement, donc un artiste donc qui surprend peut-être ceux qui n'avaient que Déjeuner en paix,
oui.
D'associer avec Stéphane Escher. Et moi, je vais vous surprendre aussi, peut-être, avec un disque que je vais vous passer, qui est signé les Bee Gees. Alors, les Bee Gees, bien sûr, tout le monde
staying
connaît.
Alive et tout
staying
ça.
Alive, bien sûr, toute la période disco. Et je dis période parce que pour beaucoup, ce n'est qu'un groupe disco. Mm-hmm. Mais en fait, non. Les frères Gibb sont issus donc, d'une famille britannique originaire de l'île de Man. Ils ont dans leur jeunesse, ils sont installés en Australie, donc il y a eu un déménagement familial, et en Australie, ils se sont mis à écouter les Beatles et les Rolling Stones et à être très 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 influencés par ce courant-là. Ils ont même réussi à avoir un certain succès en Australie, assez même notable, hein, puisque un de leurs titres est devenu numéro 1. Le titre, je vais vous le retrouver tout de suite, Speaks and Specs, voilà, qui devient numéro 1 donc, en Australie en 1966. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident, pour donner un petit peu plus de corps à leur carrière, eh bien de regagner l'Angleterre en 1966. Et depuis l'Angleterre, ils publient donc l'album Bee Gees First. Alors Bee Gees, pour la petite histoire, ça se rapporte aux lettres en anglais B et G, donc Bee Gees. Et c'est l'acronyme de Brother Gibbs, voilà, tout simplement, parce que c'est trois frères, forcément les trois frères Gibbs qui sont le noyau dur de ce groupe. En 1967, eh bien, ils publient donc ce Bee Gees First, qui n'est pas en fait leur premier album, mais en réalité le troisième, mais le premier album destiné au public international. Voilà, le premier qui a une ambition internationale. Donc bien avant la période disco dont je vous parlais tout à l'heure, cet album, il évoque vraiment, vraiment, très, très clairement, on est même à la limite du pastiche des Beatles, ça rencontre un vif succès en plus, hein. Ils sont associés à ce mouvement et on parle d'eux comme étant les nouveaux Beatles, même après cet album. Donc surprenant. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, je vous propose d'écouter le titre In My Own Time, qui fait partie de cet album, et qu'on va enchaîner juste pour le fun avec Taxman, le premier titre de l'album Revolver des Beatles, paru un an plus tôt en 1966. Donc tout de suite, croyez-le ou pas, on va s'écouter un morceau des Bee Gees.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet.
Et comme annoncé, c'était donc les Beatles avec Taxman, juste Taxman. Après ce morceau, qui, je l'espère, vous aura un petit peu instruit sur les cheminements musicaux des Bee Gees.
C'est assez bluffant. Je n'aurais jamais, en blind test, pensé une seconde aux Bee Gees. Pour ceux qui effectivement, ne connaissent pas forcément les débuts, ouais. Il y a eu un sacré virage disco par la suite, quand même. Hein.
Ah
c'est,
oui, bah, oui,
c'est rien
pense,
de le dire.
Je pense qu'ils ont été dans le courant principal des époques successives qu'ils ont traversées.
Eh bien, ça va être l'heure de nous quitter, hein, avec ce dernier morceau.
Et oui, déjà.
Comme d'habitude, la petite tradition, je vais vous passer un morceau de la compilation Brown Acid. Cette fois-ci, c'est du Third Trip. Third Trip, où j'ai eu beaucoup de mal à choisir un morceau. Il y en a vraiment des très très bons. Je pourrais même vous le conseiller pour une entrée en matière, ce troisième volume. Et donc, je vous propose d'écouter un morceau un peu tardif en plus, hein, parce qu'on parlait de Post Altamont, ouais. 69, machin.
Très belle c'est pochette, en tout cas. Je la mets sous les yeux là pendant que tu en parles. Magnifique.
Oui, tiré d'un film, je crois, pour le coup, cette fois-ci.
Ah oui.
Donc, je disais, ouais, un morceau un peu tardif, 1982, de Houston, au Texas. Le groupe s'appelle Blown Free et le titre s'appelle The Wizard.
The Wizard, ça me fait penser à un groupe, tiens, ça. Les Australiens qu'on connaît bien. Je vous en passerai sûrement, d'ailleurs, lors de la prochaine émission, dans 15 jours.
Eh bien, très bien, on se dit à dans 15 jours, voilà. Alors, même heure, jours. Même jour, tout ça.
Exactement, nous, on fait le nécessaire, en tout cas, on essaye.
On essaye.
Au max. Allez, salut, salut.
Salut.
www.radio-g.fr.